Oui, bonjour à tous. Donc je suis Eric Parent, je suis enseignant-chercheur à AgroParisTech dans une unité de mathématiques appliquées dans laquelle il y a deux équipes, une qui s'occupe de génome et une qui s'occupe d'environnement. Et Claude Millier m'a demandé de revenir sur les aspects quantification des incertitudes. Donc après le physicien, vous allez avoir le mathématicien. Et je vais d'abord vous faire un point historique. Il y a deux paradigmes mathématiques en probabilité pour quantifier les incertitudes. Je vais essayer de vous expliquer mon point de vue sur chacun des deux paradigmes et répondre à la question de Claude, c'est-à-dire comment passer de l'un à l'autre, puis du deuxième point de vue au premier. Et je vous proposerai quelques réflexions sur, en situation de changement climatique, que deviennent ces paradigmes. Donc, vous êtes tous au courant de ce que c'est qu'une probabilité. C'est un opérateur qui va d'une partie, des parties d'un ensemble, qu'on appelle les événements, vers 0,1. Donc les probabilités, c'est l'outil mathématique qui sert à quantifier les incertitudes. Et qu'est-ce qu'on demande à cet opérateur ? On lui demande de respecter des règles d'opérations ensemblistes vis-à-vis des poids qu'il donne à chacun de ces événements. Donc ça, c'est une définition qui se trouve dans tous les manuels de mathématiques. C'est un construit, c'est un objet intellectuel, d'accord ? Et sur lequel il y a des raffinements lorsque le cardinal de l'ensemble des événements n'est pas discret, lorsqu'il est infini, dénombrable, non dénombrable, bon, il y a tous les raffinements que vous connaissez en théorie de la mesure, sur lesquels je ne rentre pas ici. Moi, ce qui m'importe, c'est faire la différence entre le concept et ce qu'on en fait. En fait, il y a deux interprétations concrètes de ce que c'est qu'une probabilité. Vous avez l'interprétation de Jacques Bernoulli qui dit que c'est la fréquence limite du nombre d'événements favorables sur le nombre d'essais. Donc ça, c'est une vision répétitive. Finalement, pour employer les termes d'Hervé Le Trotte, c'est une vision rétrospective. Fait des expériences, on les répète, et puis on compte le nombre de fois où ça va bien sur le nombre de fois où on essaye. Et puis il y a une autre définition de la probabilité, qui est celle de Thomas Weiss, que je vous ai mis là en anglais, sur lequel on trouve des termes comme probabilité, chance, expectation, happening. Et je ne suis pas un spécialiste du vieil anglais. Moi, je vais plutôt utiliser la définition que donne Joseph Kadan dans Principle of Uncertainty, qui dit une probabilité dans ce deuxième contexte, c'est simplement le prix que vous êtes prêt à payer, un pari sur un événement qui vous rapporte 1 euro. Si l'événement se produit et qui vous rapporte rien si l'événement ne se produit pas. Donc ces deux façons opérationnelles de définir les probabilités sont vraiment des probabilités, c'est-à-dire qu'on peut vérifier que chacune des définitions appliquées obéit aux règles mathématiques de ce que c'est qu'une probabilité. Par contre, elles sont extrêmement différentes. Le premier paradigme, qui est le paradigme fréquentiste, ça c'est un anglicisme, on devrait plutôt dire fréquentiel, c'est-à-dire la vision où on répète une expérience, cette vision-là, elle définit la probabilité comme une propriété de l'objet. Lorsque vous lancez une pièce de monnaie et qu'elle va retomber une fois sur deux sur pile ou face, okay, c'est cette probabilité 1,5, c'est un attribut de l'objet pièce de monnaie. Elle est unique, elle est objective parce que attribuée à l'objet. Et dans ce contexte, elle ne qualifie finalement que les choses que vous observez, sur lesquelles vous pouvez faire des expériences. Et puis, il y a la deuxième mesure de l'incertitude grâce à cette seconde notion de probabilité, la probabilité de Thomas Bayes, la probabilité bayésienne. Et ça, c'est une probabilité qui est plutôt une probabilité qui traduit une croyance, qui est non pas liée à l'objet lui-même, mais liée à ce que l'on pense de l'objet. Et donc, c'est une probabilité qui est personnelle, qui dépend de ce que vous savez, qui est conditionnelle. De notre éducation mathématique à tous ici, on a surtout retenu la première notion. C'est ça qui est enseigné en France, en tout cas. La vision répétitive, la vision fréquentiste. Dans la pratique, on utilise très souvent la seconde vision, avec tous les problèmes que ça peut avoir, parce que c'est une vision personnelle. C'est pas une probabilité en soi, c'est ce que vous pensez. Okay. Et très souvent, on ne fait pas la différence dans la vie courante scientifique, et ça peut amener une certaine confusion, notamment en termes d'utilisation et de communication. Par exemple, si vous adoptez le premier paradigme, c'est-à-dire la vision répétitive, la vision rétrospective, un intervalle de confiance, c'est une fiabilité d'une procédure d'estimation. Si vous changez votre procédure d'estimation, c'est-à-dire si au lieu de faire une estimation par la moyenne, vous faites une estimation par le maximum ou par le max de vraisemblance, ou quelle que soit la technique d'estimation que vous utilisez, vous changez l'intervalle de confiance. Si vous adoptez la seconde définition, la vision, on va dire prospective, la vision prédictive, eh bien, à ce moment-là, l'intervalle de confiance, qu'on appelle intervalle de crédibilité en bayésien, ça crédibilise quelque chose que vous ne voyez pas, puisque c'est votre inconnu. Et ça, vous avez le droit de le faire uniquement si vous êtes dans le contexte bayésien. Si vous êtes dans le contexte fréquentiste, vous n'allez attribuer des probabilités qu'à des événements qui se répètent sur des choses que vous pouvez voir, qu'à des observables. Et donc, l'intervalle de confiance, dans le contexte bayésien, c'est un jugement probabiliste direct. Et c'est souvent comme ça qu'on l'utilise. De la même façon, quand on met en œuvre des hypothèses, une hypothèse est un objet abstrait, donc dans le contexte fréquentiel, ça ne peut pas être probabilisé. On ne peut pas parler de la probabilité d'une hypothèse. Et donc on ne peut pas parler de dire « je retiens » l'hypothèse d'évolution X ou Y parce qu'elle est la plus lourde. Si vous parlez de ça, vous êtes donc dans une vision bayésienne, dans le second paradigme. Donc par exemple, les scénarios d'évolution climatique dont Hervé a parlé, si vous les probabilisez, eh bien vous utilisez une probabilité personnelle. Si je prends un autre exemple, j'ai représenté ici la production hydroélectrique d'Hydro-Québec sur le bassin de Churchill Falls. Et puis, on s'intéresse à savoir s'il y a eu un changement. Les Canadiens sont pour le changement climatique. S'il y a plus d'eau, il y aura plus d'électricité, d'hydroélectricité, ils vont vendre plus d'électricité aux Américains et leur niveau de vie va s'améliorer. Et d'après cette série, là, vous voyez En ordonnée, ce sont des térawattheures. En abscisse, ce sont les années. On dirait qu'il se passe quelque chose dans les années 1980. Il y aurait une diminution de la production hydroélectrique, alors que les modèles climatiques, si je me trompe, prévoient plus d'eau. Si je ne me trompe, prévoient plus d'eau. Donc il y aurait plutôt une augmentation de la production. Donc est-ce que cet endroit-là, c'est un artefact, ou est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose? Là, vous avez deux façons de voir les choses. Si vous êtes un statisticien conventionnel qui utilise la notion de répétabilité, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une hypothèse. Son hypothèse, ça va être qu'il n'y a pas de changement. Parce que c'est l'hypothèse de base, l'hypothèse dite H0. On va simuler sous cette hypothèse, et sous cette hypothèse, on va représenter la distribution des écarts possibles entre deux niveaux. Du maximum des écarts possibles entre deux niveaux. Et puis on va regarder quelle est la valeur constatée sur notre série. Je l'ai mise là, ici, en rouge. Cette valeur, elle est autour de 5 TWh. Et on va dire, c'est contre l'idée de cette hypothèse qui... Ici, je dessine une répartition avec un modèle normal, vous reconnaissez la courbe en cloche. Et bien, avoir une valeur aussi grande, c'est contre cette idée de base, il n'y a pas de changement. Donc, il y a un changement. Donc ça, c'est le raisonnement de celui qui suit le premier paradigme. Le raisonnement de celui qui suit le second paradigme, je l'ai représenté ici. J'ai représenté sur cet axe les dates éventuelles de changement. J'ai représenté sur l'autre axe l'importance du changement éventuel. Et vous avez ici une répartition de probabilité qui prend son maximum autour de 1981, si je considère la date de changement, et autour de 5 unités, si je considère l'écart de changement. Si vous êtes dans cette vision-là, vous avez donné une crédibilité à des choses qu'on ne connaît pas, la date de changement et l'intensité du changement. Vous avez même donné une probabilité conjointe. Donc vous êtes dans le second paradigme. Et il y a une guerre qui est à peu près finie aujourd'hui, entre ces deux points de vue quant aux façons de quantifier les incertitudes. Il y a un excellent livre qui a été écrit par Sharon McGrain qui s'appelle « The Theory That Would Not Die » et qui décrit en fait les épisodes de cette guerre. Les uns disent, comme Dennis, « Je ne suis pas un croyant, pour moi la science est objective. Okay » Et donc il est hors de question que j'utilise une vision qui mesure des croyances. Et puis, il y en a d'autres qui disent, ce qui compte, c'est la cohérence. C'est la cohérence mathématique. Et avoir un point de vue de statistique bayésienne sur des choses qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on fait naturellement. Il faut le poursuivre. Donc moi, je vais essayer de nous aider à passer d'un point de vue à l'autre point de vue. Donc je vais d'abord parler du passage de la probabilité bayésienne, la probabilité personnelle, la probabilité subjective, à une vision fréquentiste. Pour ça, la notion importante, c'est la notion de symétrie. En probabilité, on appelle ça l'échangeabilité. Le tenant de l'approche fréquentiste, celui qui a mis en place correctement, mathématiquement, tous les axiomes de la probabilité fréquentiste, c'est Kolmogorov. Et le grand homme qui a expliqué en quoi la probabilité personnelle n'était pas une vision ridicule en science, c'est De Finetti. Donc ça, c'est le début du XXe siècle. De Finetti, c'est 1930-1940. Donc, voilà, par exemple, imaginez que vous êtes un responsable qualité dans une entreprise. Alors, nous sommes statisticiens, donc nous sommes pessimistes. Donc, j'ai codé 1, le fait que le premier objet que j'avais contrôlé dans mon entreprise est défectueux. le deuxième est défectueux, le troisième est défectueux, le quatrième est défectueux, ah, celui-là est correct, etc., etc. Si je vous demande de prévoir quelle est la valeur que vous allez observer ici, vous avez normalement tous tendance à me dire c'est sûrement un objet défectueux que tu vas encore sortir dans ton échantillonnage. Voici un autre jour, une deuxième série du même contrôle de la qualité. Là, effectivement, vous avez une réaction inverse, c'est-à-dire il y a beaucoup de zéros, donc c'est plutôt zéro. L'objet ici va plutôt être comme l'essentiel des précédents. La fabrication à ce moment-là serait sous contrôle. Donc vous avez, en partageant cet avis avec moi, déclaré que votre série n'était pas indépendante. Vous avez conditionné l'occurrence de celui-là sur le passé de la série, dans chacune des circonstances. D'accord ? Donc si vous faites ça avec moi, ce qu'on fait très naturellement, vous êtes en rupture par rapport à la modélisation classique qui dit, il y a une urne dans laquelle il y a une certaine proportion d'objets défectueux, suffisamment grande pour que les tirages soient indépendants, de même loi, et on tire dedans, puis on regarde si c'est défectueux ou pas, puis on recommence, et de façon indépendante. Donc en fait, en pratique, vous m'avez traduit une situation de dépendance, alors que depuis toujours, dans votre cours de base de probabilité, on vous a dit c'est une série IID, de variables binaires. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas si vous... Alors, la notion clé, c'est que les variables telles que celles que j'ai représentées, et on ne sait pas si elles sont dépendantes ou indépendantes. Là, pour le moment, elles sont dépendantes dans votre perception des choses. Mais elles sont échangeables. C'est-à-dire que leur loi conjointe reste invariante si je les permute. Et il se passe quelque chose de bizarre. Si je vous présente trois fois la même série, de 1, de 0 et de 1, eh bien, vous n'avez pas les mêmes réactions si je vous dis c'est un jeu de pile ou face avec une pièce équilibrée. Si vous êtes muni de cette information-là, votre prochaine annonce, vous n'avez pas besoin du passé ou d'un jeu de données équivalent pour faire votre prévision. Le fait que vous connaissiez que ce soit une pièce équilibrée, ça vous permet de... Vous n'avez pas besoin d'apprendre. Ça vous permet de faire la prévision directement. Le deuxième exemple, c'est le contrôle de la qualité. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez utilisé l'échantillon pour apprendre sur un concept clé qui était la proportion d'objets non conformes, que vous avez ensuite projeté de façon prédictive pour imaginer le suivant. Donc dans cette situation-là, il y a une incertitude de connaissance. Et vous avez la possibilité d'apprendre. Dans cette situation-là, le jeu de pile ou face, il n'y a pas d'incertitude. Il y a une certaine variabilité naturelle qui est due à l'expérience, mais il n'y a pas d'incertitude. Vous êtes en situation d'information complète. Dans cette situation-là, imaginez que c'est la même série, avec la naissance attendue dans une famille où vous avez vu 6 garçons et une fille. La dame est enceinte, quel est le prochain enfant? Là, vous êtes dans une situation intermédiaire. Ça dépend de vous. Si vous croyez que parce que vous n'êtes pas... parce que vous n'avez pas plus d'informations que ça, ou parce que vous pensez qu'il y a autant de filles que de garçons dans la population à peu près, vous n'avez pas besoin de savoir que... Vous pouvez oublier le fait qu'il y ait eu beaucoup de garçons. Et vous annonceriez, selon les lois de probabilité de la génétique, il y a une chance sur deux que ce soit une fille ou un garçon. Si vous pensez, et c'est votre croyance personnelle, qu'il y a des effets de l'alimentation à donner plus souvent des garçons si vous mangez salé, par exemple, que des filles. Et donc, c'est une famille avec certaines caractéristiques que vous hypothéquez, c'est une hypothèse que vous faites, c'est une vision du problème. Mais vous allez dire, bah oui, c'est peut-être plus souvent un garçon qui va se produire. Ce que je veux simplement dire par cet exemple, c'est que pour apprendre, il faut qu'il y ait de l'incertitude. La situation de pile ou face, vous n'apprenez rien des données. Et alors, il y a eu des mathématiciens qui ont travaillé sur ces exemples, okay, et qui ont essayé de représenter ce que voulaient dire les gens quand ils faisaient des prévisions. Quand ils se mettent en situation où ils ont des données éventuellement en nombre très grand, qui sont dépendantes, mais échangeables. C'est une situation de symétrie de base d'un échantillon. Alors je vous passe le théorème, mais qu'est-ce que ça dit? Ben, ça dit que il y a une alors le premier théorème, si je passe pas, parce que De Finetti c'est quand même celui qui a ouvert la voie, il a travaillé avec des variables en 0,1, il a montré que dans ces circonstances-là, ça avait l'expression de la loi conjointe des grandeurs inconnues avait une certaine forme, qui était celle de l'urne, mélangée avec quelque chose qui était une distribution qu'on ne connaissait pas. Et puis, Savage, puis Witt ont généralisé cette vision-là, 20 ans plus tard, sur des grandeurs aléatoires quelconques. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça nous dit que quand il n'y a pas d'incertitude de connaissance, le terme savant c'est épistémique, okay, on ne peut pas apprendre. Donc en fait, dans toutes les situations d'incertitude intéressante, on fait des prévisions et on est en situation de méconnaissance. Et finalement, le jugement qu'on probabilise qu'on fait, c'est la vision positive de l'incertitude. Non seulement on exprime ce qu'on sait, mais de façon complémentaire, on exprime ce qu'on ne sait pas. Et puis, ce que disent les théorèmes de représentation, ben ils disent que si vous voulez vous prononcer sur une grandeur inconnue, qui est échangeable, eh bien à ce moment-là, votre fonctionnement intellectuel, c'est comme si vous conditionnez l'expression de la probabilité de cette grandeur inconnue sur une certaine quantité qui résume les propriétés qui vous manquent pour caractériser cette grandeur inconnue. Ce que les mathématiciens appellent la vraisemblance. Et cette vraisemblance dépend d'un paramètre que j'ai ici noté par une lettre grecque. Et votre vision prédictive, c'est une espèce d'intégration sur toutes les valeurs possibles de cette quantité inconnue de la vraisemblance. Alors, en fait, la vision prédictive bayésienne, elle se met comme une association de la vraisemblance, où là c'est la probabilité classique, la probabilité répétitive, intégrée contre votre croyance. Et ce qu'on appelle le prior en statistique bayésienne, finalement c'est l'encodage de l'expert. C'est ce qu'il sait sur les quantités qu'on ne voit pas. Dans cette vision de probabilisation des choses qu'on ne voit pas, eh bien, on peut distinguer plusieurs niveaux d'incertitude. Vous avez donc l'incertitude de connaissance, qu'on va exprimer par des probabilités données par un individu. Vous avez des incertitudes de ressemblance. On va dire que parce que y a des continuités dans les modèles dynamiques de climat, des points qui sont proches se ressemblent. Donc c'est là où on va mettre la connaissance scientifique. Et puis, vous avez des incertitudes par essence, qui sont essentiellement dans la vision de nos problèmes de changement, les capacités de détection de nos appareils. Si vous allez répéter une expérience de mesure de l'albédo d'un nuage, eh bien vous n'allez pas toujours trouver la même chose. Okay. Donc en fait, ce que vous voyez n'est pas exactement ce que vous imaginez. Donc il y a ces trois niveaux qu'on trouve dans toutes les constructions probabilistes de cette vision d'incertitude. Alors, je vais peut-être vous illustrer un peu comment ça se passe sur l'exemple de l'Airbus Rio Paris qui s'est crashé en 2008, là en janvier 2008. Alors, je passe mon Airbus. C'est 5 minutes, c'est ça que tu me dis?
C'est 5 minutes, mais après avec les 10 minutes de question, okay. Donc tu peux jouer.
Je passe mon Airbus. Simplement, ce que j'essayais d'illustrer par ces dessins, c'est que la statistique vue sous l'angle expression de croyance, c'est en fait les techniques d'apprentissage conditionnel. Donc faire de la statistique lorsque on suit le second paradigme, le paradigme bayésien, on est dans une construction où on met à jour ce que l'on sait, on est dans une vision conditionnelle, on fait des jugements probabilistes, et ces jugements changent au fur et à mesure où on acquiert de l'information. C'est une espèce de filtrage, finalement, pour les gens de la pratique. Donc j'essaie de faire maintenant le passage de la vision conventionnelle à la vision bayésienne. Donc ce passage, il se fait à travers la décision. Pour moi, ça va depuis Wald. Donc Wald, c'était un statisticien qui a longtemps... il n'a pas pu publier parce qu'il travaillait sur les méthodes de vérification des qualités des armements durant la Seconde Guerre mondiale. Donc il avait mis au point des techniques statistiques qui permettaient d'être économe en termes de plan d'expérience pour vérifier que les cartouches explosaient quand il fallait. Et puis Wald, il a développé toute une théorie qui ressemble un peu à ça. Vous avez des décisions à prendre. Dans son cas, c'était choisir le nombre de cartouches qu'il allait tester. Donc c'est ma fléchette. Et puis, en fonction de ce que vous allez faire, eh bien, il y a des conséquences qui éventuellement sont hasardeuses. Donc, vous allez lancer votre fléchette sur votre cible. Et puis, en fonction de l'endroit où votre fléchette va atterrir, eh bien, vous avez une récompense qui est plus ou moins grande. Votre maîtrise du jeu peut être très différente. Si vous êtes un novice, eh bien, vous avez une localisation assez imprécise de l'endroit où vous allez viser. Si vous êtes un expert en fléchette, vous allez pouvoir la localiser très précisément avec une faible erreur. Et la question, c'est, dans chacune de ces situations, comment faut-il agir? Et en fait, Wald a été un des premiers à utiliser de façon opérationnelle les concepts dont vous parlera Claude-Henri demain, d'utilité espérée. En gros, ce qu'il faut faire, il faut imaginer tous les points que vous pouvez atteindre avec votre fléchette, en faire la moyenne. Okay. Cette moyenne est différente selon que vous êtes expert ou pas. Si vous êtes un expert, vous visez le triple 20. Ah oui, c'est un jeu de fléchettes anglais comme dans les pubs. Hein. Donc je ne suis pas sur la situation française du tir à l'arc. Il y a des cases qui sont différentes. Donc il faut viser le triple 20. Si vous n'êtes pas expert, ben, vous avez intérêt à viser en bas à gauche. Parce que comme vous êtes vous avez une grande incertitude, vous allez maximiser vos chances de gain si vous visez là. La théorie de la décision, en fait, c'est ça. D'accord ? Alors, il y a eu un truc bizarre, donc je passe la théorie de la décision. Ce qui est intéressant dans la théorie de la décision, c'est qu'on peut proposer des règles de fonctionnement qui sont optimales. Qu'est-ce que c'est qu'une règle ? C'est en fonction des informations que vous avez, eh bien, donc vous avez par exemple joué 5 fois aux fléchettes, vous avez un certain score, qu'est-ce qu'il faut faire au mieux plus tard ? Donc ça c'est une règle. Donc une règle c'est une application de l'ensemble des informations que vous avez dans l'ensemble des attitudes possibles. Et Wald n'arrivait pas à trouver une règle qui soit, quel que soit l'état inconnu de la nature, la meilleure. Ce qu'il a montré, en gros, c'est qu'il n'arrivait pas à trouver de dominance uniforme. Et tout ce qu'il pouvait faire, c'était éliminer les règles qui étaient systématiquement moins bonnes qu'une règle donnée. Et puis après, il restait des règles qui, dans certaines situations, étaient bonnes, dans d'autres étaient très mauvaises, mais on ne pouvait pas les ordonner les unes par rapport aux autres. Et ça, c'est le concept de règle de Pareto, de règle admissible. Et donc il a fonctionné comme ça pendant un moment. Et puis, ses étudiants, plus tard, ont repris son travail parce qu'il devait faire un cours. Et ils se sont aperçus que l'ensemble des règles admissibles, c'était toutes les règles qui se vivaient, hein, qui se décrivaient en termes bayésiens. C'est-à-dire, il fallait se comporter comme si on mettait des pondérations sur les inconnus de connaissance. Parce que ça convexifiait le problème et que ça donnait des bonnes solutions. Et à ce moment-là, vous avez eu des discussions de salon. Il y a des gens qui ont dit, oui, cette façon de procéder, c'est juste une astuce mathématique. Et ça nous permet d'avoir de bonnes règles. Et puis, ça les a fait réfléchir. Notamment, il y a eu ça a des conséquences en termes de paris, par exemple. Aux États-Unis, on parie sur les. On fait du loto-foot depuis très longtemps, on parie sur les résultats de baseball. Et on prenait pour parier sur les résultats de baseball l'estimateur standard, l'estimateur de la moyenne. On prenait les résultats passés des joueurs, puis on avait leur performance moyenne, et ça, c'était le meilleur prédicteur. Et bien, cette façon de procéder, lorsque vous avez plus que 3 joueurs, c'est une mauvaise façon de procéder, c'est une façon dominée. La bonne vision, la bonne façon de faire, on peut montrer que c'est systématiquement meilleur, c'était de voir ce problème sous un angle où on mettait des pondérations, voir sous un angle bayésien. Ça, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Stein, et ça, ça a été une révolution parce que ça avait des applications concrètes. Et puis, il y en a qui ont dit, bah oui, ces pondérations que vous mettez pour reconstruire ces règles non dominées, c'est ce que vous accordez comme poids ou valeur possible des inconnus. C'est donc une probabilité d'expert sur les inconnus. Donc il y a eu, à travers cette vision décisionnelle, un retour en force du paradigme bayésien chez les statisticiens. J'ai encore 3 minutes ?
Oui, il faudrait.
Ok, j'accélère. Donc, je vous ai raconté une histoire qui est en train de se terminer actuellement. Il y a, avec l'explosion des méthodes computationnelles, tout un pan du calcul statistique qui a basculé sous cet angle bayésien. Parce que, en fait, ce qui posait problème au début, c'était de disposer des machines, des méthodes, des algorithmes, en fait, en pratique, des algorithmes Monte Carlo, chaîne de Markov, qui permettaient d'avoir les résultats. Parce que si vous faites du bayésien, vous mettez des probabilités sur tout. Et donc, comme dans les modèles, vous avez souvent plusieurs centaines d'inconnus, vous tringlez des voies de probabilité à plusieurs centaines d'inconnus. Et ça, on ne savait pas, jusqu'à peu de temps, les représenter facilement. Je veux parler des challenges en situation de changement. Alors essentiellement, le raisonner et prendre des décisions, ce sont deux façons de travailler de notre cerveau qui sont intimement mêlées. En situation de changement, il se passe un certain nombre de choses. D'abord, la décision est séquentielle. Donc en situation de changement, vous avez soit décidé tout de suite de prendre des restrictions internationales, de mener la guerre aux Chinois parce qu'ils continuent d'utiliser leur centrale à charbon ou des choses comme ça, soit vous allez reporter votre décision en disant « attendons d'avoir plus d'informations, on aura une meilleure connaissance de notre système et peut-être que notre action sera meilleure ». Donc il y a cette vision d'arbitrage temporel, okay, qui change le contexte standard de la théorie de la décision. Il y a aussi, bien sûr, des problèmes de modèles, de choix d'hypothèses. On a des exemples. Donc le plus célèbre, à mon idée, ce sont les joints théoriques de la fusée, de la navette Challenger en 86, où c'était des conditions de lancement qui étaient inhabituelles. On a utilisé un modèle qui prévoyait le fonctionnement plus ou moins correct de ces boulons toriques. Et en fait, on l'a extrapolé hors de sa zone de fonctionnement. Okay. Et on a eu les catastrophes que vous savez. Donc on a pensé que c'était fiable. Okay. Et en fait, l'extrapolation du modèle a mal fonctionné. Tout ça pourquoi? Parce que, essentiellement, en statistique, corrélation et causalité sont deux notions très très différentes. Et on pense souvent que si on construit un modèle où il y a du conditionnement, ça représente de la causalité. Pas du tout. Ensuite, il y a des difficultés à mettre en musique la théorie de la décision, je pense qu'ils sont des difficultés purement biologiques. Alors, bon, il y a les difficultés standards de communication. Tout le monde ne connaît pas, n'interprète pas correctement ce que c'est qu'une probabilité. Par exemple, si je dis « je vais construire un ouvrage qui va vous prémunir contre 95% des inondations », dans la tête de certains, ce n'est pas la même chose qu'un ouvrage qui va laisser passer 5% des inondations dommageables. D'accord ? Donc en fait, la communication sur les probabilités est difficile. Mais au-delà de ça, il y a aussi notre façon de voir. Du point de vue des neurosciences, en fait, il y a deux façons de voir le problème. Mais toutes les deux aboutissent aux mêmes difficultés en situation de changement climatique. Il y a une vision évolutive, une vision adaptative de la psychologie, qui dit « notre cerveau, il imagine tous les possibles, il pondère chacun des possibles, il fait cette opération parce qu'il y a des milliards de connexions dans notre tête, il est capable de le faire. » Par exemple, vous jouez au tennis, eh bien, vous allez avoir une vision compte tenu de ce que vous savez du jeu de tennis. Nadal, il envoie toujours sur le bord du terrain en revers fort, donc c'est là essentiellement a priori que je m'attends à voir arriver la balle. Et puis j'ai dans ma tête un modèle qui évalue à quelle vitesse il a mis en place son engagement, et donc j'ai une zone de vraisemblance pour l'arrivée de la balle. Et selon les tenants de cette théorie, donc on combine la vraisemblance et le prior, donc on est dans une vision tout à fait bayésienne d'adaptation. Okay. Et nous nous sommes adaptés de façon à prendre les décisions les meilleures au cours de l'évolution. Donc, si vous lisez des gens comme Curding, par exemple, il vous explique qu'on devrait se comporter selon les règles que j'ai décrites dans le second paradigme. Et que c'est une question d'adaptation, d'évolution. Il y a une autre hypothèse de fonctionnement de notre réaction face à l'incertitude, qui est basée sur les marqueurs somatiques. Donc ça, si vous lisez Damasio ou Changeux, par exemple, l'erreur de Descartes ou l'homme neuronal, vous allez avoir là-dessus une vision intéressante qui dit que le raisonnement n'est pas découplé des émotions. Et que chez les malades qui ne perçoivent plus les émotions, donc les psychopathes par exemple, en fait, ils n'ont pas la capacité de prendre des décisions. Parce que faut-il pour prendre une décision? Il faut que vous soyez, pour prendre une décision rapide, il faut que vous soyez en état d'homéostasie avec l'extérieur, et ça c'est vos émotions en fait. L'émotion, c'est la prise de conscience de votre état de relation avec l'extérieur. Okay. Et donc si vous êtes dans cet état-là, vous avez appris des raccourcis. Si vous entendez siffler un serpent, vous bougez. Et donc ça permet non pas en termes de décision, de prendre des décisions optimales, mais ça permet de raccourcir tout l'éventail des alternatives à considérer. Et donc dans les deux cas, que vous soyez dans le cas adaptatif ou dans le cas marqueur somatique, il y a eu un problème d'échelle de temps. On est dans une situation de changement climatique où l'échelle de temps est extrêmement courte. Il se passe sur 100 ans une modification qu'on n'a pas eu le temps d'intégrer dans nos perceptions. On voit bien des ours qui dérivent de la banquise, c'est en train de se faire. Mais on n'a pas eu le temps de faire l'acquisition de réactions rapides face à des décisions qui sont sûrement urgentes. Donc ça, du point de vue de la psychologie de la décision, on est dans une situation difficile. Enfin, il y a aussi un problème de la communauté des chercheurs. Dans la théorie de la probabilité personnelle, il y a une garantie asymptotique qui dit que quand des experts d'avis différents voient suffisamment d'informations, asymptotiquement, leurs probabilités subjectives vont converger vers la même loi. Le temps de cette convergence, ça c'est un théorème mathématique de convergence asymptotique. Pour que cette convergence se fasse, il faut beaucoup de données, c'est une vision asymptotique du problème. Je pense que compte tenu du temps que nous avons pour agir et de la masse de faits qui n'est pas encore accumulée, il y a un problème aussi dans la communauté scientifique. Il y en a eu récemment, je pense que c'est en train de s'arranger. Mais il y a une vision, une difficulté, si vous maniez des probabilités subjectives, à faire converger ces probabilités personnelles vers une vision commune, qui est inhérente au paradigme. Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis désolé d'avoir pris un peu plus de temps que prévu.
Exposé vraiment intéressant. On va être obligé de raccourcir la partie questions, mais comme il y a la pause juste après, vous pourrez aller poser des questions à Eric Parent. Peut-être juste une ou deux questions très rapides, et puis après on fait la pause parce qu'il faut qu'on prenne à moins 20. Il faut le temps de digérer. Bon, j'avais même un point à savoir. André, quand tu avais les courbes de scénario, tu dis c'est une. On est dans le deuxième paradigme.
Oui.
Tu peux expliciter, parce que je ne suis pas sûre d'avoir...
Parce qu'en fait, un scénario, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez observer directement. Vous ne pouvez en observer que les conséquences éventuelles. En fait, c'est un construit, un scénario. C'est une vision abstraite du problème qui n'est pas observable.
Faire ton micro.
Allô ?
Il faut mettre le bouton.
Et attendre que ça soit vert.
Voilà.
C'est vert. Okay. Donc un scénario est un construit intellectuel. Okay. Et ce n'est pas quelque chose qui est observable directement. Vous l'observez à travers ses conséquences. Donc en fait, vous avez imaginé une cause et vous voyez les conséquences. Et ça, vous savez le probabiliser parce que vous êtes un ingénieur. Par contre, ce qui intéresse l'homme de la rue, c'est la probabilité de la cause. Est-ce qu'on est dans le scénario machin, sachant la conséquence ? Une vision dans l'autre sens. Donc, c'est en ce sens-là que si vous faites courir des scénarios en compétition, vous êtes dans une vision et que vous les probabilisez, vous êtes dans une vision prédictive, et donc vous n'êtes pas dans la vision rétrospective classique des probabilités. Mais c'est pas grave, on est tous comme ça.
Hein. Bonjour, je suis Frédéric Bazin, je travaille à l'Institut de recherche et application des méthodes de développement. Et j'ai une question, peut-être une clarification. Vous avez expliqué qu'il y avait plusieurs niveaux d'incertitude. Vous avez parlé de l'incertitude de connaissance, de ressemblance et une incertitude liée à l'essence. Donc le troisième, vous avez un peu expliqué, vous avez dit que c'était les capacités de détection de nos appareils. Les incertitudes de connaissance, je crois que j'imagine de quoi il s'agit. Par contre, les incertitudes de ressemblance, Ça, vraiment, j'ai aucune idée de quoi vous voulez parler.
D'accord. Alors, c'était ma conclusion, là. Je vais reprendre mon dessin. Ce que l'on cherche, ce sont des incertitudes qui sont finalement des incertitudes de connaissances. Par exemple, un des grands problèmes des mécanismes du changement climatique, si on le savait, ça nous aiderait bien, je vais prendre ça comme ça, c'est le rôle des nuages. Hervé, tu veux bien m'aider ? On m'avait expliqué que les nuages étaient bas, ils avaient tendance à absorber et à réchauffer la Terre et donc favoriser le changement climatique. S'ils étaient hauts, ils réfléchissaient et à ce moment-là, ils avaient tendance à refroidir. C'est l'inverse. Bon, je suis désolé, je ne suis qu'un pauvre mathématicien. Et donc il y a une controverse sur est-ce que le changement climatique va produire plus de nuages qui vont être réfléchissants ou plus de nuages qui vont être absorbants. Et ça va changer les choses. Enfin, c'est une des clés. C'est André qui m'avait dit ça de Toulouse. C'est une des clés qui va
régler. Les commentaires
donc c'est pour essayer d'illustrer. Donc ce que l'on cherche en fait finalement, c'est dans une circonstance donnée un indice, un albédo de nuages. Donc ça c'est ma couche du haut. Vous allez dans ma couche jaune, imaginez comment ça marche. Alors imaginez comment ça marche, encore une fois je répète, je ne suis pas physicien, même si j'ai eu des cours d'excellents professeurs. Comment ça marche ? Essentiellement, les modèles climatiques, c'est des choses qui disent qu'on va représenter l'accroissement dans le temps d'une certaine quantité qui nous intéresse, pas la température par exemple, en faisant un bilan. Okay ? Et que l'échauffement va se propager à la cellule d'à côté. Donc il y a un modèle de connaissance, et ce modèle de connaissance, c'est un modèle de ressemblance. Ça dit que des choses qui sont proches vont se ressembler en caricaturant. Alors évidemment, c'est bien plus délicat que ça, mais c'est ça que ça fait. Ça crée une unité structurelle de comportement. Où ça va vous dire que des arbres qui sont de la même espèce ont tendance à se comporter de la même façon. C'est bien. Où ça va vous dire que des individus qui ont un génotype proche vont avoir un phénotype proche. Enfin, pas exactement, mais quand même. Et c'est là où il y a de l'incertitude, et cette incertitude-là, c'est de l'incertitude de ressemblance. Donc essentiellement, quand on imagine un phénomène, on fonctionne en disant ça se passe comme ça, et puis si ça se passe pas exactement comme ça, il y a une certaine incertitude, et cette incertitude-là, elle est d'autant plus faible que les choses sont proches, proches dans le temps, proches dans l'espace. Et c'est en ce sens que je parlais d'incertitude de ressemblance. J'aurais dû dire connaissance du fonctionnement. Ça, c'est l'aspect positif. Incertitude de ressemblance, c'est une vision négative de la connaissance physique. Et c'est ça qui vous choque, je pense. Et après, la dernière couche, ce que l'on voit, c'est pas exactement ce qui se passe. Peut-être que votre appareil de mesure, il est censuré, et dès qu'il fait trop chaud, dès qu'il y a une grosse inondation, finalement, vous ne mesurez pas le débit, vous voyez que votre station dérape. Et c'est un indice quand même que ça ne va pas. Et donc pour moi, dans ma vision constructive de mathématicien, il y a ces trois niveaux d'incertitude.